Vous êtes sur RTL.
On ne peut pas laisser un sadique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, se balader, courir comme ça dans les auberges de jeunesse. Il peut recommencer du jour au lendemain. Il faut absolument que ce fou soit arrêté le plus vite possible.
Bonsoir. L'ADN peut-il résoudre toutes les enquêtes? Être le sésame absolu, la clé qui va permettre de déverrouiller n'importe quel dossier criminel. Une enquête en 1996 va s'avérer révolutionnaire et autoriser le recours massif au prélèvement ADN. Tout un village testé. Une première, l'affaire Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans et demi, violée et tuée alors qu'elle dormait avec des camarades dans une auberge de jeunesse en Bretagne. Affaire qui aboutira, après bien des détours, grâce à la ténacité des enquêteurs et, il faut bien le dire aussi, grâce à un incroyable concours de circonstances, à l'arrestation du suspect, un routard du viol bien loin de la Bretagne, en Amérique. C'est ce dossier et les méthodes révolutionnaires du juge Renaud Van Ruymbeek, invité ce soir de l'heure du crime, que nous allons explorer dans cette émission. Avec nos invités, nous allons remonter le fil de cette enquête emblématique. Plus de 20 ans après les faits, l'affaire Dickinson est devenue un cas d'école pour les apprentis juges, gendarmes ou policiers. Un jeu de pistes qui a pour point de départ la chambre d'une auberge de jeunesse, le mystère de la chambre 4, une traque internationale qui tenait à un simple prélèvement de salive. Caroline Dickinson, l'arme de l'ADN pour retrouver le violeur et le tueur de la petite Anglaise. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Dickinson, une jeune Anglaise de 13 ans et demi, à l'été 1996. Elle est en voyage scolaire en Bretagne, un séjour qui va très vite se transformer en cauchemar. Le jeudi 18 juillet 1996, aux alentours de 8h du matin, l'une des adolescentes anglaises qui loge depuis 4 jours à l'auberge de jeunesse de Plaine-Fougère, en Ille-et-Vilaine, alerte un de ses accompagnateurs. L'une de ses copines, Caroline, ne s'est pas réveillée et ne bouge plus sous son sac de couchage. Elle est au premier étage, chambre numéro 4. Elle voulait absolument rester avec ses 4 amis installés sur des lits superposés. L'auberge lui avait donc installé un matelas sur le sol. Une infirmière accompagnée d'une employée de l'auberge monte au premier étage. Le matelas, enjambé par les adolescentes, bloque la porte. On aperçoit que les pieds qui dépassent. Peut-être un malaise. Un médecin est prévenu. Il examine rapidement la petite Anglaise, chevelure blonde, simplement vêtue d'un t-shirt, et comprend aussitôt. Inutile d'appeler une ambulance, il faut tout de suite prévenir la gendarmerie. L'adolescente est morte. Étouffé. Les hommes de la section de recherche de Rennes sont vite sur les lieux. Une équipe de techniciens de l'identification criminelle effectue des prélèvements. Le commandant René Coméret sait que les premières heures dans une enquête sont capitales. La mort d'une jeune ado rend le dossier encore plus sensible. 40 gendarmes sont mobilisés. La victime s'appelle Caroline Dickinson, née le 7 octobre 1982 à Plymouth, 13 ans et demi. C'était son premier voyage scolaire à l'étranger, avec 40 autres adolescents âgés de 11 à 15 ans, dont 5 garçons du collège de Launceston, dans les Cornouailles. Caroline est arrivée le 14 juillet au soir à Plaine-Fougère, un bourg de 1900 habitants tout près du Mont-Saint-Michel. Au menu du séjour, des excursions dans la région et beaucoup de temps libre. La veille du drame, tout le monde a dîné à 19h30. Extinction des feux à 23h. L'auberge de jeunesse affiche complet. En plus du groupe scolaire britannique, il y a 8 autres clients, 2 couples de motards français et 2 couples de Suisses allemands qui font du VTT. Les copines de Caroline disent n'avoir rien entendu. Elles précisent qu'à cause de la chaleur de cette nuit d'été, elles avaient laissé la fenêtre ouverte. Les résultats de l'autopsie indiquent que Caroline a été violée. Des prélèvements de sperme sont effectués sur ses sous-vêtements. Elle a été étouffée avec un bâillon posé sur sa bouche, avec sans doute cette boule de coton retrouvée sur place. L'heure du décès est établie entre 4h30 et 4h45 du matin. Si le tueur est entré dans la chambre par la fenêtre du premier, il a dû emprunter une échelle. Une témoin dit avoir entendu des pas sur le gravier. Un motard a aperçu lui une silhouette masculine. Des adolescentes disent avoir croisé un homme en allant aux toilettes. Autant de descriptions prises en compte. Un premier portrait robot est établi. Une collégienne croit reconnaître l'un des motards qui a quitté les lieux à l'aube. Mais cet homme est hors de cause. Tous les adultes masculins de l'auberge, personnel, clients, accompagnateurs, subissent un test ADN négatif pour tout le monde. Le juge d'instruction de Saint-Malo, Gérard Zog, est chargé alors du dossier. Bonsoir Renaud Van Ruymbeck.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes évidemment une figure connue de la magistrature. Avant de rejoindre le pôle financier à Paris, vous avez été longtemps en poste à la cour d'appel de Rennes. Vous avez été juge d'instruction, conseiller de la cour d'appel. Je me souviens que vous sévissiez d'ailleurs dans cette cour d'appel, dans ce magnifique parlement de Bretagne, dans un minuscule bureau, là où vous traitiez vos affaires. Vous êtes l'auteur de Mémoires d'un juge trop indépendant qui vient de paraître chez Talendier. Alors, dans cet ouvrage que je conseille vivement à nos auditeurs, vous parlez évidemment de diverses affaires et évidemment beaucoup d'affaires politiques et financières. Pourquoi avez-vous gardé une enquête qui est un fait divers, on peut le dire, cette enquête d'Higginson, pourquoi vous l'avez conservée dans votre ouvrage ?
Ben, j'ai hésité parce que, effectivement, l'ouvrage est consacré surtout à les relations à travers les dossiers que j'ai pu connaître, les relations justice-pouvoir politique, hein, qui ont été quand même difficiles et que j'en ai connu un certain nombre.
Et qui le sont toujours d'ailleurs.
Qui le sont toujours, mais il y a une évolution quand même depuis l'époque où on étouffait les affaires et il fallait se battre pour les sortir. Bon, mais j'ai également développé tout ce qui est paradis fiscaux. Et effectivement, il y a cette affaire que je ne pouvais pas ne pas évoquer, parce qu'elle a occupé quand même trois ans de ma vie. Je dis pas que c'était une obsession de retrouver l'auteur de ce crime, mais je pouvais pas ne pas l'évoquer, évoquant tout le parcours que j'ai eu.
Elle était très importante, elle est toujours très importante dans votre parcours, on le comprend bien. Alors, je précise, et je l'ai dit, mais vous n'êtes pas sur l'enquête au tout début, là, dans cet épisode que je viens de raconter, mais avec le recul, vous allez ensuite enquêter, avec le recul, est-ce que tout a été fait dans les règles au début, c'est-à-dire que l'enquête est...
Alors, ce qu'il y a eu de bien, c'est il y a eu des prélèvements, ils ont prélevé le sperme de l'auteur, donc on a l'ADN de l'auteur. Mais pour le reste, c'est un fiasco. Ils vont interpeller un routard qui circulait là.
Bien sûr. Après,
voilà, c'est ça. Ils vont aller sur une fausse piste, l'enquête va dans le mur dès le départ. Et je ne récupérerai le dossier qu'un an plus tard, alors que le dossier est au point mort et qu'il faut vraiment tout reprendre à zéro.
Pourtant, Dieu sait si dans cette affaire, le meurtrier, vous l'avez dit, il y a des indices qui ont été prélevés, il a laissé des traces, cet homme.
Oui.
C'est pas qu'on le suit à la trace, mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent.
Oui, mais l'inconnu, si vous voulez, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas le routard qui passait, enfin le motard qui dormait à l'auberge, c'est pas quelqu'un de l'auberge, c'est un extérieur. On a l'ADN qui est effectivement la preuve parfaite parce qu'on a une qualité d'ADN qui ne se discute pas, mais on n'a rien. Quand j'hérite du dossier, on n'a rien de plus. Il y a 60 millions de Français, ça peut être un extérieur, c'était la pire des hypothèses. Si jamais c'est un extérieur, comment est-ce qu'on va le trouver ?
Comment le retrouver, bien sûr.
Il n'y a pas de fichier ADN à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous êtes là dans le flou le plus total. Michel Tanneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Ouest France et co-auteur du livre « L'affaire Dickinson » aux éditions Apogée. Très bon livre également, et très documenté. Vous êtes en ligne ce soir et l'un de nos invités dans l'heure du crime. Dites-moi, Michel Tanneau, émotion évidemment à pleine fougère dès lors qu'on apprend ce crime atroce. À quoi ressemble ce village tranquille d'Ille-et-Vilaine ?
Ah bien, c'est un village effectivement qui voit passer pas mal de touristes, hein, parce qu'on est auprès du Mont-Saint-Michel, et puis particulièrement à l'auberge de jeunesse, qui entre parenthèses a fait faillite, hein, à la suite de cette affaire Dickinson. Plus jamais aucun groupe britannique n'est venu y séjourner, de scolaire en tout cas. Et donc c'est un village tout à fait tranquille, touristique. Alors la région voit aussi travailler pas mal d'ouvriers sur les polders, hein. Donc il y a, c'est une population très mélangée.
Ce que vous dites par là, c'est que c'est assez mouvant, il y a beaucoup de personnes qui passent, des touristes, des ouvriers, etc.
Bien sûr, dès le départ, les gendarmes ont pas mal d'hypothèses, hein, celui du rôdeur, du routeur, mais aussi celui d'un agresseur local. Hein, ça n'a jamais été écarté dès le départ, d'où ensuite des tests ADN qui seront oui. effectués.
Il y a des tests, évidemment, cette énorme campagne de tests ADN. On va y venir dans des chapitres oui. Successifs. Encore un petit mot, est-ce que les gens se regardent un petit peu en chien de faïence dans ce village ? Là, tout le monde suspecte tout le monde ou on n'en est pas encore là ?
Non, on ne peut pas dire ça, mais c'est un choc terrible quand même, parce que bah, c'est une enfant, bien sûr, presque adolescent, mais elle a 13 ans seulement. Il y a le meurtre et le viol. Non, on ne peut pas dire que les gens se suspectent, mais ils sont abasourdis. Ils se demandent bien qui a pu commettre ce crime, surtout dans des circonstances où la jeune victime était entourée de 4 camarades dans la chambre.
Le crime d'un rôdeur, c'est l'évidence qui va rapidement s'imposer. Seulement 2 jours après la mort de Caroline Dickinson, un homme est interpellé. Il a le profil d'un suspect presque parfait. Il avoue, l'affaire est bouclée. L'affaire Caroline Dickinson sur la piste d'un rôdeur, mais est-il l'homme qui a violé et tué la jeune Anglaise ? C'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, 48 heures avec le meurtre de la collégienne anglaise en pleine fougère. 48 heures après, un homme est interpellé. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Le 20 juillet, un SDF de 39 ans, un certain Patrice Padet, est interpellé près de Sourdeval, dans la Manche, alors qu'il était en train de faire du stop. Il est placé en garde à vue le jour même, à 18h30. Si cet homme intéresse les enquêteurs, c'est parce qu'il se trouvait à pleine fougère dans les jours précédant le crime, mais surtout parce que ce grand blond, tatoué et portant une petite moustache, a été condamné en 1984 pour agression sexuelle, 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Il n'a plus fait parler de lui depuis cette date. Au cours de sa garde à vue, il paraît perdu. Il répond aux gendarmes par l'affirmative, aux détails qu'on lui soumet. Il admet qu'il y avait bien un escalier à l'auberge, que la victime était blonde, et répond encore oui à quelques détails sordides sur la façon dont s'est déroulé le viol. Au bout d'exactement 43 heures de garde à vue, Patrice Padet est présenté au juge Zog, qui le met en examen pour meurtre accompagné de viol. Il est écroué. Enquête résolue en un temps record. Au lendemain de la mise en examen, le juge d'instruction et le commandant de gendarmerie donnent une conférence de presse. Une réussite saluée par les journaux britanniques. Les parents de la victime, Suzanne et John Dickinson, sont satisfaits de cette arrestation ultra rapide. Ils peuvent d'ores et déjà mettre un nom et un visage sur l'homme qui a tué leur fille. Le juge Zog indique que des expertises génétiques devraient corroborer les aveux de cet homme dans les prochains jours. Succès éphémère. L'avocat de Patrice Padet, maître René Blanchard, détecte aussitôt des incohérences dans les 25 pages d'interrogatoire. Non seulement son client ne fait pas de réponse spontanée, il acquiesce à ce que disent les enquêteurs, mais qui plus est, son alibi n'est pas pris en compte. Le soir du crime, il était à Ducé, dans la Manche. Une grand-mère lui a donné un peu d'argent. Le curé de Ducé l'a ensuite pris en stop vers Avranches, devant le juge Padet. Padet revient sur ses aveux. S'il a reconnu le crime, c'est pour qu'on le laisse tranquille. Les résultats de l'analyse ADN parachèvent le travail de l'avocat du mise en examen. Le profil de Patrice Padet ne correspond pas au prélèvement de sperme effectué dans la chambre numéro 4 sur les sous-vêtements de Caroline. Résultat tardif qui ne tombe que le 30 juillet, le 7 août. Après 17 jours de détention, Padet est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Faux pas qui plonge dans l'interrogation la famille Dickinson et attire bien des critiques. Côté investigation, tout est à refaire. L'ADN reste la meilleure arme et peut-être la seule pour parvenir à un résultat. Il faut accélérer les vérifications. On s'aperçoit au passage que les 5 collégiens garçons qui faisaient partie du voyage scolaire n'avaient pas été testés. Pour cela, les gendarmes vont se déplacer en Angleterre. Renaud Van Ruymbeek, le juge Renaud Van Ruymbeek, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Dans votre livre, je rappelle, Mémoire d'un juge trop indépendant, vous revenez sur cette affaire Dickinson et vous l'écrivez. Alors, l'ADN peut inculper, en tout cas peut provoquer des poursuites, ça a été le cas, mais il peut aussi disculper.
Bah, la preuve, c'est que Patrice Padet, qui avoue au bout de 40, plus de 40 heures de garde à vue.
43 heures.
Alors moi, quand je découvre le dossier un an plus tard, je regarde ce qu'il dit, mais c'est une forme de délire. Alors, bon, à une autre époque, il avoue, il est SDF, alors il y a des gens qui l'ont vu passer la veille ou ce jour-là, bon.
Il a parlé à des fillettes, etc.
Il a avoué devant les enquêteurs, s'il n'y a pas l'ADN, excusez-moi, j'aimerais pas être à sa place. Mm. Hein, on sait que l'ADN disculpe. Et là, il va disculper. Mm. Il va dire, c'est pas son sperme, c'est tout. Voilà, donc, c'est mathématique, c'est scientifique, et ça évite des erreurs.
Alors,
voilà.
ce qu'il faut bien rappeler, Renaud Van Ruymbeck, c'est qu'à l'époque, l'ADN, il est balbutiant quasiment en France, ce genre d'opération. Ça existe, évidemment.
Oui.
Mais, par exemple, les Anglais sont très en pointe.
Ils sont très en avance. Et regardez, le changement de discours aujourd'hui. À l'époque, quand on écoute les infos, quand il y a quelqu'un qui est interpellé, il a avoué. Voilà. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Il y a un crime aujourd'hui. Que dit l'ADN ?
Oui, c'est ça. Donc,
voilà, on a quand même complètement évolué dans nos structures mentales. Et vous avez raison, à l'époque, on est au balbutiement de l'ADN. Cette affaire-là et d'autres affaires vont faire qu'on va quand même prendre conscience. Moi-même, je connais pas l'ADN. Quand je découvre ce dossier, je me fais expliquer ce que c'est, mais j'y connais rien. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, voilà, donc c'est effectivement un facteur d'identification, parce que si on vous reconnaît, bah, c'est quand même un élément important. Mais si c'est pas vous, l'ADN va le dire de façon certaine. Donc c'est quand même un immense progrès.
C'est un immense progrès. Michel Tanneau, en ligne ce soir dans l'heure du crime, journaliste à Ouest France, hein, je le rappelle. Vous étiez, je crois, à la conférence de presse du juge Zog et du patron de la gendarmerie à l'époque. Cette conférence de presse où l'on présente finalement la mise en examen de ce suspect, ce témoin numéro 1, comme on voudra. Quel est le climat qui règne alors? On sait que c'est bon, cette fois l'affaire est pliée?
Oui, alors je n'étais pas moi personnellement présent à cette conférence de presse, mais évidemment j'ai vu des images et lu pas mal de comptes rendus de mes collègues. Je pense que le maître mot de cette conférence de presse, c'est le soulagement, c'est-à-dire que le juge d'instruction Malouin et puis les enquêteurs sont soulagés d'avoir ce suspect qui avoue au bout de 43 heures. Alors, il faut bien préciser quand même qu'à l'époque, l'avocat ne pouvait pas être présent à la première heure.
Hein. C'est important
à dire, parce que l'avocat aurait peut-être quand même dit...
Tout à fait.
Inciter son client à la prudence. Là, à cette conférence de presse, il y a un soulagement. On présente Patrice Padet comme l'auteur du double crime. Mais il faut bien dire aussi que tout le monde, chez les gendarmes, il n'y a pas unanimité. C'est-à-dire que la hiérarchie est contente de dire à la presse anglaise et de dire aussi au Quai d'Orsay en France et puis au pouvoir public britannique qu'on a résolu l'affaire. Mais parmi les enquêteurs de base, je dirais, beaucoup ont des doutes.
On ne le sent pas, c'est ça que vous voulez dire, Michel Tanneau.
Oui, on ne le sent pas. Les collègues l'ont dit aussitôt. La hiérarchie dit que c'est lui. Bon.
Et encore un petit point qui me turlupine, Michel Tanneau. Pourquoi ces tests ADN sont faits si tardivement sur ce SDF? Parce que on aurait dû le faire tout de suite pour savoir si c'est lui ou pas lui. Point barre.
Oui. Alors à l'époque, quand même, il fallait. Pour les labos qui faisaient ces tests ADN, il fallait plusieurs jours. Hein. Aujourd'hui, comme disait M. Van Ruymbeck, le monde a changé un petit peu avec l'ADN. Parce qu'un juge d'instruction, aujourd'hui, sur une affaire criminelle, il peut obtenir les résultats très vite, en 24 ou 48 heures. Quoi. Là, ça a mis effectivement plusieurs jours. Et comme le juge et les enquêteurs, la hiérarchie, n'y croyaient pas, il a fallu faire une contre-expertise ADN. Et la contre-expertise ADN, elle a dit la même chose que l'expertise, c'est-à-dire pas des innocents.
Des gendarmes qui doutent des tests ADN tardifs. L'enquête va marquer le pas pendant plusieurs mois. Les recherches ne donnent rien, même si la pression de la famille et des autorités anglaises reste intense. Les investigations vont changer de main et de braquer. Toute la population masculine d'un village va faire l'objet de tests génétiques. L'affaire Caroline Dickinson, son meurtrier et violeur, est-il un habitant de Plaine Fougère? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Des tous les États-Unis et même jusqu'à l'Australie, c'est dire. Et c'est ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Caroline Dickinson. Un peu plus d'un an après le viol et le meurtre de cette adolescente de 13 ans et demi, l'enquête change du tout au tout. Après la mise hors de cause du SDF Patrice Padé, les investigations sont dans l'impasse. Les tests génétiques effectués sur 5 adolescents qui faisaient partie du même voyage scolaire de Caroline Dickinson n'ont rien donné. Les auditions se poursuivent donc sur commission rogatoire internationale en Angleterre et dans d'autres pays. La famille Dickinson a peur que le dossier finisse aux oubliettes. Elle est reçue à Londres, au cabinet du ministère de la Justice. Elle a le sentiment d'être tenue à l'écart depuis que le juge de Saint-Malo a rejeté une demande de rendez-vous ainsi qu'une demande d'acte jamais réalisée en France que tous les hommes du village de Plaine Fougère soient soumis à des tests génétiques. L'avocat des parents, Hervé Rousseau-Leboeuf, saisit alors la cour d'appel de Rennes. Le conseiller Renaud Van Ruymbeck est de permanence et hérite du dossier. Une expertise génétique systématique des hommes âgés de 15 à 35 ans habitant Plaine Fougère est ordonnée. Le jeudi 14 août 1997, le juge Gérard Zoug est dessaisi. C'est donc le juge Van Ruymbeck qui va désormais piloter l'enquête. Concernant la campagne de test ADN, elle se déroulera du vendredi 10 au dimanche 12 octobre. Les prélèvements ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas tenu de vous présenter, vous êtes libre de consentir ou de refuser, précise le juge dans une lettre adressée aux personnes répertoriées. Aussitôt annoncée, l'opération se heurte aux réticences de certaines associations. Le maire de la commune, Christian Couet, assure que tout se déroulement s'en heurte, mais il craint que l'image du village ne soit ternie si d'aventure le meurtrier se cachait parmi les habitants. Un air de soupçon collectif plane sur la commune. Les tests vont au total concerner 400 personnes. Très peu de refus. Le juge Van Ruymbeck souhaite que les prélèvements soient par la suite étendu à tout le canton. L'ADN est en première ligne, mais les enquêteurs se penchent également sur toutes les affaires, présentant des similitudes avec celles de Plaine Fougère. Le juge s'intéresse particulièrement à un incident survenu quelques heures auparavant, la même nuit, dans une autre auberge de jeunesse, celle de Saint-Lunaire, à 30 km de là. Une tentative d'agression sexuelle sur une jeune Anglaise qui a échoué. Une des filles dormant dans la chambre a allumé la lumière en entendant un bruit. L'agresseur a alors pris la fuite. Scénario en tout point identique à celui de l'affaire Dickinson. D'autres coïncidences troublantes sont enregistrées dans d'autres auberges de jeunesse, Brest, Saint-Brieuc, Paramé ou encore Morlaix. Un violeur en série est-il derrière le meurtre de Caroline Dickinson? Renaud Van Ruymbeck, là, désormais, vous êtes en piste dans ce dossier. C'est vous qui allez le piloter et pendant deux ans, pendant les deux ans qui viennent. Pourquoi donner cet accord à la demande des parents de la petite Dickinson sur cette campagne ADN tout à fait spectaculaire et énorme?
Parce que les psychiatres nous disent à l'époque que 80% des viols sont commis par un auteur qui habite tout près. Et il y avait une suspicion, c'était la première hypothèse sur le village, et il y avait une insistance très forte de la famille. Vous savez, c'est une affaire dans laquelle les Anglais, vous savez, c'est comme nous de l'autre côté, quoi. Bon, ils ont applaudi les Français quand ils ont arrêté Padé, ils sont extraordinaires, puis après, oh oui, bah d'accord, ok, ils sont plantés comme d'habitude, ils sont incapables. Nous, on fait des tests plus systématiques, on est en avance, ils comprennent rien à l'ADN. Donc, il y avait cette demande et quand le dossier arrive à la cour, vous l'avez rappelé de permanence, on va décider de le faire. Il y a 400 personnes, il y en a très peu qui vont pas venir. Pourtant, ils n'étaient pas obligés, je leur avais fait une lettre à chacun en disant « Vous n'êtes pas contraints de venir ». On va le faire à la mairie et pas à la gendarmerie. C'est pas tout à fait la même signification. C'est un acte citoyen. Et on va détruire systématiquement les prélèvements. Et ça a permis de lever la suspicion sur le village. Et dans le même temps, c'est toujours compliqué ces enquêtes parce que vous émettez plusieurs hypothèses qui sont contradictoires. vous l'avez rappelé, il y a eu d'autres faits dans la région. Donc, je vais me faire communiquer toutes les procédures. Il y en avait une à Saint-Brieuc, il y avait une intrusion à Saint-Malo, toujours dans des auberges. Il y en avait une à Saint-Lunaire. Bon, et je me dis, mais est-ce que c'est le même ? Parce que, vous savez, quand on a un crime comme ça, qu'il y en a d'autres qui ont été commis, ou des intrusions, on a tendance à tout mettre sur la même personne. Mais il faut examiner au cas par cas. Et en fait, sur les 4 ou 5 cas, j'ai éliminé les 2 ou 3 autres, sans être certain, mais ça ne collait pas, c'est pas du tout la même... Il y avait les témoignages...
Méthodologie, etc.
Oui, puis les témoignages, ça ne coïncidait pas du tout. Par contre, il y a un fait qui m'a interpellé, c'est le fait de Saint-Lunaire. Dans la même nuit.
Oui, ça c'est très troublant.
C'est très troublant. Et à ce moment-là, j'ai passé du temps à lire toutes les auditions des jeunes filles de Saint-Lunaire pour les comparer à ce que disaient celles de Plaine-Fougère.
Et là, ça va matcher. Là, vous
avez... Ça match.
Il y a un fil rouge, monsieur le juge, c'est les auberges de jeunesse. Ça. Déjà, vous pouvez dire que peut-être qu'il y a un rôdeur qui s'intéresse.
Voilà.
Et qui planifie ses actions.
Donc là, on est sur une autre hypothèse qui n'est plus celle de départ. C'est quelqu'un d'extérieur, celle que je craignais d'ailleurs, parce qu'alors là, ça va être beaucoup plus compliqué s'il n'est pas dans la région.
Très compliqué.
Qui s'intéresse aux auberges et aux jeunes filles dans les auberges.
Encore un petit mot. Pourquoi vous demandez des tests uniquement sur les hommes de 15 à 35 ans ? Ça m'a un petit peu troublé. Au-dessus de 35 ans ?
Non. Ça, c'est la première série de tests, mais il y a une deuxième série.
D'accord.
15 jours plus tard, on est allé, je crois, jusqu'à 60 ans.
D'accord, ok.
Non pas qu'un homme de plus de 60 ans puisse pas commettre une agression, mais par rapport à la description qu'on avait de l'auteur.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est témoignage assez difficile. D'accord. Donc vous avez effectivement fait le tour de tout le village, on peut dire, la population masculine ce village de Plaine-Fougère.
Il y en a 2-3 qui sont pas venus. Il y en a un qui était anarchiste, il a le droit, mais il correspondait pas du tout. Enfin bon, quand vous avez 3 cas qui répondent pas, c'est facile pour les enquêteurs d'examiner les 3. Si on avait eu 100, ça aurait été autre chose.
Ça aurait été difficile.
Ah bah oui, là c'était un échec.
Michel Tanneau, journaliste à Ouest France et en ligne dans l'heure du crime. Comment ça se passe? Comment s'est reçue cette campagne de test ADN dans ce village de Plaine-Fougère?
Oh, il y a une certaine résignation sur place, puisque les gens se disent oui, alors pourquoi est-ce qu'on nous teste nous? On nous soupçonne alors qu'on n'a rien fait de mal. Et puis une partie aussi se disent après tout, on va fermer la porte, comme disent les gendarmes et les juges. Ça. On va fermer cette hypothèse et puis on va peut-être avoir la paix quand on va savoir que tous les hommes de 15 à 60 ans sont disculpés par l'ADN. Je voulais juste préciser que l'initiative du juge Van Ruymbeck et des gendarmes n'était pas du tout farfelue, puisque la même année, à Garons...
Oui, c'est ça, près de Nîmes.
Dans le Gard, il y a eu une affaire, donc une jeune adolescente, Emmanuelle, de 15 ans, a été aussi violée et tuée, et il y a eu une campagne ADN dans tout le village, et sur les 200 hommes qui ont été testés, eh bien, il y avait le coupable. Mmh. Il y avait le coupable qui a avoué les faits et qui a été condamné ensuite.
Les tests ADN pratiqués auprès des hommes de Plaine-Fougère sont négatifs. Le bourreau de la petite Caroline Dickinson n'habite pas au village. La piste d'un homme seul, un itinérant ou un touriste de passage semble la plus vraisemblable, mais aussi la plus compliquée. Comment retrouver un fantôme ? L'affaire Caroline Dickinson sur la piste d'un introuvable serial violeur, un routard sans visage. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, l'ADN déployé en masse, notamment à travers une campagne de tests visant les hommes du village de Plaine-Fougère, lieu du crime, cette campagne n'a rien donné. De petits détails vont sortir l'enquête de l'obscurité. Après plus de 2 années passées à la tête de l'enquête, le juge Van Ruymbeck quitte la cour d'appel de Rennes pour rejoindre le pôle financier à Paris. Le dossier Dickinson n'a pas encore livré son secret, mais il s'est considérablement étoffé, notamment de témoignages inédits. Celui en premier lieu d'un professeur anglais, membre de l'encadrement, des mois après le crime. Il indique avoir croisé dans l'escalier de l'auberge un inconnu la nuit du drame, vers minuit 15. S'il n'a jamais parlé de cette rencontre, c'est qu'il culpabilisait de ne pas avoir demandé à cet homme ce qu'il faisait là. Les recherches sur le morceau de coton utilisé pour étouffer Caroline sont également concluantes. Il s'agit de coton anglais, utilisé pour se démaquiller par une collégienne résidant à l'auberge de jeunesse de Saint-Lunaire. Ce premier établissement où un inconnu a fait intrusion et a tenté d'agresser une adolescente. Le même homme, un prédateur, a frappé aux deux endroits. Il y a enfin cette histoire, 2 ans avant le meurtre, celle d'un individu bizarre qui rôdait autour de l'auberge de jeunesse de Croix, en Touraine, en Indre-et-Loire. Les gendarmes l'avaient interpellé, un certain Francisco Arce Montes, un Espagnol. Il était en règle, on l'avait relâché. Ce Francisco Arce Montes figure dès lors parmi les témoins à interroger en priorité. Mais cet homme, qui avait 46 ans au moment de la mort de Caroline, est totalement introuvable. À force d'éliminer des suspects, 182 personnes listées, et de fermer des portes, comme disent souvent les enquêteurs, le nom du mystérieux Arce Montes se retrouve en tête de liste. À son départ de Rennes, le juge Van Ruymbeck le laisse ainsi en héritage à son successeur à la cour d'appel, le conseiller Francis de Bon. Au mois d'avril 2001, peut-être dans l'espoir de faire bouger l'affaire, le juge de Bon accorde une interview à l'hebdomadaire anglais Sunday Times. Il y évoque le suspect espagnol. Le journal titre en donnant le nom d'Arce Montes, un coup de billard. La chance sourit aux enquêteurs. Un policier américain, qui était de passage en Angleterre et a lu l'article, fait une recherche de routine sur l'individu. Il est en prison, en Floride, pour avoir essayé de violer une adolescente dans une auberge de jeunesse. La France signale tout de suite aux autorités américaines le cas Arce Montes. Un gendarme se rend à Miami, où l'Espagnol va être jugé. Un prélèvement ADN de la salive est effectué. 3 jours plus tard, le résultat tombe positif. L'ADN de Francisco Arce Montes match avec les prélèvements effectués sur la scène de crime. Plus aucun doute, cet homme est impliqué dans la mort de Caroline Dickinson. Il a de lourds antécédents judiciaires, 3 viols dans les années 80 en Allemagne, des attentats à la pudeur, une condamnation en Espagne, une demande d'extradition est formulée par la France. Renaud Van Ruymbeck, vous êtes donc à l'époque à la tête de cette enquête. Vous allez la quitter, mais vous avez accompli un énorme travail et notamment fait sortir ce nom, Arce Montes. Comment est-ce qu'il remonte, ce nom, finalement? Comment vous arrivez à vous intéresser à lui?
Ben, tout simplement parce que quand j'ai fait le rapprochement entre les faits de Saint-Lunaire et de Plaine Fougère, je me suis dit c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui rôde sur les auberges. Et il a peut-être déjà, il a peut-être laissé des traces quelque part dans d'autres auberges. Et je suis saisi au mois d'août et au mois de septembre, je fais une grande réunion avec les gendarmes. Donc on définit parce qu'on fait du profiling. Voilà, on va tester tous les violeurs connus dans le secteur, ceux qui sont sortis de la maison d'arrêt, les gens qui peuvent ressembler au portrait robot qui était dans les polders. Donc on dit, travail énorme sur les chantiers, etc. Donc il y a tout un travail de fond. J'avais fait un peu la théorie des cercles, si vous voulez. On teste tout le monde dans le village. On va tester tous ceux connus pour vol dans le canton, et puis ailleurs, on va élargir, et voilà. Et puis, à la fin de la réunion, je dis aux enquêteurs, là, il y avait un haut gradé de Paris qui était là, puisqu'on était à Rennes, et je garde la cerise sur le gâteau, si vous voulez, à la fin de la réunion, j'ai dit, oh, j'aurais peut-être encore une piste à explorer. Je lui dis, voilà, ce que je vous demanderais, c'est d'aller rechercher toutes les procédures de France, et de Navarre, dans lesquels il y a des traces d'intrusion dans des auberges de jeunesse, et établissements assimilés, genre colonies, etc. Et à ce moment-là, ce gradé, il hésite quand même, parce que c'est un travail énorme.
De titan.
C'est un travail de titan. Et alors, je lui dis un peu perfidement, peut-être, mais je dis, écoutez, si vous voulez, je comprends, mais dans les zones... urbaine peut demander à la police. Il m'a dit non, on le fait. Ils l'ont fait. Et 2 mois plus tard, au mois d'octobre-novembre, je reçois toutes les procédures dans lesquelles des gens ont été identifiés dans des auberges de jeunesse. Et dedans figure, j'ai sorti, on va identifier 95, je me souviens très bien, j'ai passé du temps à étudier ces procédures, 95 noms.
Ouais. Et ce qui est énorme déjà.
Ce qui est énorme. Et je peux vous dire qu'il y avait des suspects beaucoup plus intéressants. Ouais. Alors, Arce Montes.
Et
dans les 95, il y a Arce Montes.
Et pourquoi lui, alors, vous dites des suspects plus intéressants? Parce qu'il revient, il est là.
Parce qu'il y a des critères. Parce que, alors, le problème, c'est que quand, je me souviens, quand je vois ce nom d'Arce Montes, c'est marrant parce que ça m'a frappé, vous voyez, quand on va le retrouver 3 ans plus tard. Ah bah oui, oui, je vois très bien qui c'est. Parce que il approche un groupe de jeunes Irlandaises. C'est exactement... Mais, il ne ressemble pas au portrait robot, du tout. On nous parle d'un little van, Frenchy little van, vieux,
camionnette.
Fourgonnette. Il a une petite voiture Mazda toute propre. On nous décrit un personnage qui est hirsute, qui est... Il est très bien coiffé, il porte sur la photo, je me souviens très bien qu'il y avait sur sa carte d'identité, que j'avais vue à l'époque. Et puis, manque de chance, inconnu, totalement inconnu.
Oui, c'est ça, il a disparu.
Et quand je demande aux enquêteurs, est-ce que ce monsieur est connu, etc., dans la région, est-ce qu'il a laissé une trace, inconnu au bataillon. Donc, il y a des trucs troublants, mais en même temps, voilà. Ouais. Donc, et c'est avec le temps qui va
émerger.
Ben oui, parce qu'on va tester tout le monde et il va être dans les derniers à ne pas être testé.
Ouais,
alors
ça.
Nous, on n'a qu'un espoir, c'est que l'auteur soit dans notre, dans notre filet.
Voilà. La nasse va se refermer.
Oui, c'est un entonnoir.
Tout à fait. Michel Tanneau, journaliste à Ouest France, en quelques mots, ce Francisco Arce Montes, il a un profil très chargé tout de même. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, juste un ajout à ce que vient de dire M. Van Ruymbeek. Il y avait aussi un autre élément sur lequel bloquaient les gendarmes, c'est que tous les témoins à Saint-Lunaire et surtout à Plaine Fougère avaient décrit un homme de 30 à 35 ans maximum, grand maximum, alors que Francisco Arce Montes en avait 46. Hein. C'est pour dire que il y a aussi la fragilité des témoignages dans une affaire comme celle-là. Hein. Alors lui, après son profil, là on l'a appris qu'après, il était passé, il avait été condamné en Allemagne. Par la suite, il avait aussi commis une agression en Espagne pour laquelle il a pris 11 ans de prison si mes renseignements sont bons, la suite de l'affaire Dickinson.
Pour des affaires sexuelles, hein, Michel Tanneau, il faut le préciser.
Ah oui, une tentative de viol sous la menace d'un couteau. Hein. Voilà, ce qui est dommageable, c'est que l'Espagne le détenait en détention provisoire pour cette affaire de tentative de viol en 1987, alors que la justice française le recherchait. Et évidemment, la connexion ne s'est pas faite, malheureusement, entre les justices européennes, ce qui s'est nettement amélioré depuis. Quand même. Et donc Arce Montes, c'est un routard parce que il travaillait à Londres où il était serveur et il était espagnol et il est passé par l'Ille-et-Vilaine parce qu'il venait aussi voir son fils, ce qu'on a appris qu'en toute fin d'instruction, le juge de Bon l'a appris en toute fin d'instruction. En fait, il venait voir son fils du même âge de Caroline.
On l'a donc raté. Hein. C'est ça qu'on
oui,
peut dire.
Mais
en un mot,
Monsieur Tanneau, c'est pas faute d'avoir demandé aux Espagnols des renseignements sur Arce Montes. Ils nous ont jamais répondu. S'ils nous avaient répondu à l'époque, on aurait résolu l'affaire beaucoup plus tôt.
Francisco Arce Montes va finalement être remis aux autorités françaises. Le dossier contre lui est accablant, il n'évitera pas une comparution devant la cour d'assises. L'affaire Caroline Dickinson, 5 ans pour retrouver son meurtrier, le violeur des auberges de jeunesse. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Caroline Dickinson, après 5 ans d'enquête et de traque, un Espagnol, 54 ans, auteur présumé du viol et du meurtre de la collégienne anglaise, fait son entrée devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. Le 7 juin 2004, Francisco Arce Montes est face aux magistrats, jurés et avocats de la cour d'assises. L'enquête qui a permis son arrestation est alors présentée dans ses moindres détails. L'accusé a été confondu par son analyse génétique. Il ne conteste pas les faits, mais s'en tient à une stricte ligne de conduite, le mutisme, un refus de s'exprimer, de commenter telle ou telle déclaration. L'un de ses avocats reconnaît le silence pesant de son client, un mutisme tactique et systématique. Les parents Dickinson sont déçus, frustrés par cette attitude. Francisco Arce Montes ne leur donnera sans doute pas les clés pour qu'ils puissent comprendre son abominable geste. L'avocat général François-René Aubry parle d'un routard de l'agression sexuelle qui depuis 20 ans parcourt l'Europe pour satisfaire ses pulsions, un pervers, un manipulateur. Il demande la perpétuité. Arce Montes est finalement condamné à 30 ans de réclusion assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Un an plus tard, la justice confirme le jugement de première instance. Cette fois, Francisco Arce Montes s'est montré un peu plus loquace et coopératif. « Je veux me soigner, je veux qu'on me guérisse. Je ne veux plus de cette vie d'errance, je veux qu'elle s'arrête. Je veux mener une vie normale, comme vous. Ne me condamnez pas à une peine de destruction », déclare-t-il en préambule. Il dit aussi regretter son geste et n'avoir pas voulu tuer Caroline. Des mots, mais rien de nouveau pour la famille Dickinson, rien qui ne pourra permettre d'apaiser sa douleur. Michel Tanneau, journaliste à Ouest France, est l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Je crois que vous étiez présent à ce premier procès de Arce Montes. Alors décrivez-nous un petit peu déjà le personnage, parce qu'on en a parlé de lui un petit peu comme d'un fantôme, d'un routard un peu fuyant, un peu qui échappe à tout. À quoi ressemble-t-il ?
Oui, mais justement, il a été très fuyant aussi pendant ce premier procès de Rennes. Il avait dit qu'il s'expliquerait davantage au second procès, qui a eu lieu à Saint-Brieuc un an plus tard, et c'était toujours aussi décevant. Mmh. Sa position de défense, c'était de dire de plaider les coups mortels, c'est-à-dire des violences volontaires ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner à Caroline. Mais la cour n'a pas suivi cette... mais sinon, il a été très... très décevant, il ne s'est pas expliqué. Il ne s'est pas expliqué et bien sûr la famille attendait ça, la justice aussi, mais il s'est très peu expliqué sur les faits et sur son parcours de routard, effectivement, de l'agression sexuelle. Hein.
Routard du crime, physiquement, il ressemble à quoi, Arce Montes ?
Ma mémoire est bonne, il avait 46 ans au moment des faits. Donc, 5 ans de plus, ouais, la cinquantaine au premier procès.
53 ans.
Ouais, il présentait plutôt bien, c'était une attitude très décevante. Et puis celle du second procès l'était encore davantage, parce qu'il avait dit qu'il faisait appel pour s'expliquer, alors qu'il aurait pu ne pas faire appel, puisque les réquisitions étaient à la perpétuité, et il n'avait pris que 30 ans entre guillemets, 30 ans de
réclusion. Oui, c'est ça. De toute façon, au procès d'appel, ce que j'ai très brièvement raconté, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à raconter, il va parler un petit peu au début, puis ensuite se fermer totalement. Oui. Michel Tanneau, la famille Dickinson est restée là face à un mur, quoi, c'est ça ?
Oui, elle a quand même rendu hommage quand même à la justice française, parce que bien sûr il y a eu des années de déception. Pendant 5 ans, on s'est tous demandé, les juges, les gendarmes et nous journalistes aussi, on s'est tous demandé si cette affaire serait élucidée un jour. Et là on est quand même arrivé au bout, et eux ils ont quand même eu la dignité de ne pas commenter le verdict et de ne pas dire on aurait souhaité la perpétuité en hommage à Caroline. Ils ont été très dignes en disant la justice a fait son travail et puis c'est très bien.
Et puis c'est très bien. Renaud Van Ruymbeek, quand on est juge d'instruction comme ça et qu'on tient les rênes d'une telle affaire, on pense à la famille que vous connaissez, les Dickinson. Ils sont venus vous voir, vous avez longuement discuté avec eux. Vous pensez à eux, vous...
Bien sûr, et je dirais que ce qui m'est apparu, parce que je n'avais pas d'expérience dans ces affaires-là, j'étais plutôt dans les affaires financières, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur explique. Voilà. Les juges doivent expliquer aux familles qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et il y a même eu d'ailleurs une aide de la famille, puisque M. Dickinson, à plusieurs reprises, a fait des conférences de presse avec mon accord, connaissant un peu les problèmes, en disant voilà, je fais appel à. Il y a des gens qui savent. Et d'ailleurs, il y a eu une personne, en tout cas, qui aurait pu nous répondre. Il suffit qu'une personne téléphone un détail. Et il y avait un numéro vert, donc il y a eu un appel à un témoin. Mais il y a quelque chose qui se passe.
Mais vous pensez que les juges ne parlent pas assez aux parties civiles, comme on les appelle, c'est-à-dire les familles des victimes?
À l'époque, en tout cas, quand j'hérite du dossier, il y a un fossé total, parce qu'il y a de l'animosité de la famille contre le juge Zog, parce qu'il y a eu ce loupé de départ.
Il a refusé de les voir.
Voilà. Et donc, quand j'ai récupéré le dossier, je me suis dit, j'ai une chance sur deux de le trouver. Il faut aussi mettre en œuvre beaucoup de moyens. Je les avais, on les a utilisés. Mais il faut aussi l'expliquer.
C'est ça, oui.
Parce que si on ne le trouve pas, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas tout fait pour le faire. La justice, elle n'est pas... Bon, elle est faillible, elle peut laisser... Il aurait pu passer à travers, vous savez, ça a joué du miracle, parce qu'il est passé 2 ans avant à 200 kilomètres et qu'on l'a repéré ce jour-là, mais il n'a rien fait. Et c'est à cause de ça qu'on va finir par l'identifier, nous, dans notre fichier. Alors, ça ne tient pas à grand-chose.
C'est l'aiguille dans la botte de foin, là, vraiment. Oui, c'est mais pour alors, reprendre un cliché, mille fois usé.
Mais... C'est, on n'est jamais sûr de la trouver, l'aiguille.
Oui. Michel Tanneau, en quelques mots, qu'est-ce qui reste de cette affaire Dickinson sur place? Ça a traumatisé tout un village. Vous parliez de cette auberge de jeunesse qui a fermé. Est-ce qu'on en parle encore là-bas, en Ille-et-Vilaine?
Oui, l'auberge de jeunesse, elle a fait faillite. Elle a été transformée en maison des associations quand même. Hein. Je crois que dans ce village de Pleine-Fougère, ils veulent oublier. Hein. Ils veulent tourner la page. Mmh. Les deux procès l'ont permis. Ils veulent oublier. Ils veulent oublier cette affaire. Moi, ce que j'en retiendrai, c'est surtout la ténacité... Des services de gendarmerie, des juges d'instruction successifs, bien sûr, et se dire qu'une affaire n'est jamais finie, n'est jamais... en ce moment, en Loire-Atlantique, où j'habite, il y a l'affaire Jonathan qui revient à la surface, puisque l'Allemagne a consenti à remettre le principal suspect à la juge d'instruction nantaise, et nous sommes 16 ans après les faits.
Renaud Van Ruymbeek, juste un mot, on est à la toute fin de l'émission. Vous gardez quoi comme souvenir de cette affaire? C'est un succès? C'est une leçon?
C'est une leçon d'humilité, parce que on émet des hypothèses, et on émet de fausses hypothèses, et il faut aussi un peu de réussite à un moment donné pour y arriver.
Merci beaucoup Renaud Van Ruymbeek et Michel Tanneau d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'affaire Caroline Dickinson, expliquée par ceux qui la connaissent le mieux. Justice est faite pour cette petite Anglaise de 13 ans et demi. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.
Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.